48 FM Le Mag. Culture,
logement,
environnement,
cuisine, gastronomie.
48 FM.
Emploi, développement économique,
vie associative,
tourisme,
rubrique pratique.
48 FM Le Mag.
Sport, nature, TIC,
citoyenneté,
patrimoine.
Et bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue pour ce numéro 65 du MAG en direct de nos studios avec aujourd'hui plusieurs invités, hein, vous en avez l'habitude, ils sont au moins trois et aujourd'hui ils sont quatre. Et donc on va commencer d'abord avec donc Héloïse Coste et Mathilde Py de la DIL et on va parler notamment de la loi Allure. Voilà.
Tout à fait.
Bonjour.
Bonjour.
On continuera ensuite avec Jacques Vaquier de l'Observatoire de la laïcité de Lozère, voilà, qui organise une conférence débat sur le thème l'école et la laïcité. Donc c'est ce soir, hein, c'est ça. Voilà, donc bonjour et à tout à l'heure. Et puis on terminera avec Laurent Joyeux. Il sera peut-être accompagné de Dominique Brun dans quelques instants. Mais voilà, et on parlera de la Mostra. Vous avez vu des vitrines s'ouvrir dans Mende pour ce lèche-vitrine d'art contemporain qui a commencé le week-end dernier. Bonjour.
Bonjour.
Bien, voilà, on commence tout de suite. Et puis, j'oublie de présenter mon co-animateur à qui je laisserai la place tout à l'heure. Frédéric, qui va nous accompagner. Je vais te laisser la parole en commençant pour ce premier sujet avec la DIL, Héloïse Coste et Mathilde Py, sur la loi Allure.
Ben, merci Guillaume et bonjour à tous. Et puis, merci de me laisser en si charmante compagnie avec Héloïse et Mathilde. Qui viennent nous parler effectivement de la loi Allure. Qu'est-ce que c'est cette chose ?
Alors, la loi Allure, c'est la loi pour l'accès au logement et un urbanisme rénové, donc dite loi Allure, qu'on attendait, qui a été promulguée donc, le 24 mars 2014, donc il y a quelques jours seulement, et publiée au Journal officiel le 26 mars. Et c'est vrai que c'est une loi, la loi pour le logement de Madame Cécile Duflot, donc ancienne ministre du Logement, de fait, depuis quelques jours aussi.
Donc elle n'est plus là, mais nous, on est toujours là.
Mais voilà, et la loi, elle est bien là, elle est bien parue, et elle contient un grand nombre de mesures en lien avec le logement, les rapports locatifs, l'urbanisme, enfin voilà, beaucoup de choses. Et alors, on annonce tout de suite qu'on ne pourra pas être exhaustif aujourd'hui, à moins que vous nous laissiez beaucoup de temps, puisque la loi compte 177 articles.
Et donc, vous ne comptez pas nous les lire tous.
Et alors, au choix, mais effectivement, j'ai peur que ce soit un petit peu long.
Sachant qu'il y a deux grands volets quand même dans cette loi, un volet urbanisme et un volet logement, c'est ça, non ?
Plus que ça, disons qu'il y a quatre grands titres dans la loi Allure, à savoir un titre qui est plus spécifique pour la location, donc qui est le premier, qui s'appelle « Favoriser l'accès de tous à un logement digne et abordable ». Ensuite, il y a un aspect de lutte contre l'habitat indigne et les copropriétés dégradées. Après, il y a un volet logement social et amélioration de l'accès aux logements sociaux. Et ensuite, il y a effectivement le volet urbanisme qui est censé simplifier tout ce côté-là.
Et toujours quand on annonce la simplification, ça complique souvent.
Mais... Attention.
Mais
vous semblez attendre cette loi avec impatience. Alors qu'est-ce qu'elle change fondamentalement ou quelles sont les évolutions qu'on peut attendre pour les locataires et les propriétaires, par exemple?
Alors c'est vrai qu'en matière de rapport locatif, cette loi apporte un grand nombre de changements. Et c'est vrai qu'on l'attendait, alors impatiemment ou pas, dépend de quelle
vision. C'est-à-dire que vous en avez à peu près une tous les ans, quoi. Donc
Effectivement, mais des grandes, on en a une par ministre à peu près. Mais c'est vrai que celle-là était particulièrement tendue. Et puis il y avait des mesures phares qui avaient été annoncées. Hein. Je pense notamment à la GUL. À l'encadrement,
c'est la
GUL, c'est la garantie universelle des loyers. Ouais. Donc c'est vrai que ça a été très, très médiatisé, hein, cette GUL. Donc c'est une garantie qui se fait gratuite et dont l'objectif est à la fois de protéger les propriétaires bailleurs contre les impayés de loyers, de permettre aux locataires d'accéder plus facilement aux logements, au parc locatif s'ils n'ont pas de caution personne physique, et d'améliorer la prévention des expulsions. Donc ça, c'est une mesure phare de la loi. Une autre mesure dont on a beaucoup, beaucoup entendu parler, c'est l'encadrement des loyers. donc l'encadrement des loyers, c'est-à-dire que le propriétaire ne pourra plus fixer son loyer comme il voulait, au niveau qu'il voulait, comme il le faisait jusqu'à maintenant. Alors, en fait, la loi, elle vient nous dire que ça sera que dans les zones tendues et puis qu'il n'y aura pas un loyer qui sera applicable le même partout. Donc, il y aura des observatoires des loyers qui devront se mettre en place dans les territoires, dans les zones tendues, pour définir une fourchette en fait, de loyer bas et de loyer haut. Et au moment de la signature d'un nouveau bail, il faudra fixer le loyer dans cette fourchette-là et ne pas dépasser le loyer de référence majoré.
La Lozère est en zone tendue ?
Alors non, contre toute attente, nous ne sommes pas en zone tendue, en tout cas pas pour l'instant, puisqu'on ne sait pas, ça pourrait effectivement évoluer, mais au jour d'aujourd'hui, la Lozère n'est pas considérée comme une zone tendue, donc les propriétaires pourront toujours fixer le loyer comme ils le souhaitent. Et de toute façon, ces mesures phares, en fait, elles rentreront en vigueur que quand on aura des décrets d'application, puisque la loi, malgré ses 177 articles, elle ne prévoit pas tout, il y a un certain nombre de mesures qui nécessitent d'être précisées dans des décrets d'application, qu'on aura dans les semaines, les mois ou plus.
Une petite dizaine de décrets par loi, par article, ça nous fait... Ouais, ça va être sympa. On a...
Alors, peut-être un décret par article, ça serait peut-être déjà pas mal.
Ouais, non, c'est trop simple.
La GUL, ça marche dès maintenant ? Enfin, non. Non, justement, non.
Non, par exemple, la GUL, on nous dit...
On te dit qu'il faut attendre le décret. Petite impatience, Guillaume.
Et puis la loi nous dit 2016, de toute façon.
D'accord.
Voilà. Et en plus, là où elle devait être obligatoire et vraiment universelle et couvrir tous les contrats de location, il y a déjà eu un petit peu un assouplissement puisqu'on nous dit qu'on pourra y renoncer dans le bail. Donc par défaut, on bénéficiera de la GUL, mais on pourra y renoncer dans le bail. Voilà. Donc voilà. Bon, on attend les décrets, mais dans tous les cas, ça s'appliquera pas avant le 1er janvier 2016.
Et est-ce qu'il y a déjà des choses qui existent sur ce sujet de la garantie des loyers pour les propriétaires ? Et puis pour aussi aider les locataires à accéder finalement à un logement s'ils n'ont pas de garantie.
Oui, dans l'attente de la GUL, on ne parle pas de rien. Il y avait effectivement quand même des dispositifs. Alors il y a deux grandes familles en fait de dispositifs. La première qu'on connaît, qui existe depuis longtemps, c'est le cautionnement personne physique. C'est-à-dire qu'effectivement, si le locataire est pas ou peu solvable, eh ben, il peut demander à quelqu'un, essayer de trouver quelqu'un qui se porte caution pour lui, sachant que ça a ses limites. Effectivement, il faut que la personne qui se porte caution, elle soit volontaire, elle soit solvable. C'est quand même un engagement lourd. Et puis, y a des locataires qui ne trouvent personne. Donc, il y a de moins en moins d'organismes qui remplissent ce rôle-là. Et puis, la deuxième grande famille de garanties, c'est les assurances loyers impayés. Donc, soit les assurances classiques, soit il y avait eu une... Je dirais quelque chose qui est l'ancêtre de la GUL, c'est la GRL, la garantie des risques locatifs. Mais pour faire court, on peut dire qu'elle n'a pas rencontré son public.
D'accord. Donc c'est pour ça qu'on invente la GUL, parce que la GRL n'a pas marché.
C'est ça.
D'accord.
Alors, vous avez certainement un droit de réserve, mais cette GUL nous semblait déjà nous dire qu'elle a été suffisamment amendée pour qu'on perde un peu la garantie... prévu initialement, est-ce qu'on peut craindre des...
Moi, je suis par nature optimiste. Alors, non, je pense qu'elle fera ses preuves et on espère effectivement qu'elle remplira ses objectifs, à savoir garantir aux propriétaires bailleurs qu'ils soient moins frileux pour louer et qu'ils aient une garantie de percevoir des loyers et faciliter l'accès au logement des locataires. Après, ce qu'on peut éventuellement regretter, c'est que là où elle se disait universelle, effectivement, on va pouvoir y renoncer. Et ce qu'on peut craindre éventuellement, c'est qu'effectivement, elle ne concerne plus qu'une petite ou une partie du parc, alors là où effectivement elle devrait couvrir tout le parc, mais moi je suis de nature optimiste et j'espère vraiment que c'est un dispositif qui fonctionnera.
Bon, ben on accompagne nous si on est positif.
Voilà.
La positive attitude.
Absolument.
Laurie.
et non, tu ne chanteras pas du Laurie aujourd'hui, Guillaume. Merci. Et quoi de plus sur ces décrets d'application qu'on attend et qui devraient avoir, j'imagine, des choses très très concrètes à mettre en place, et plus particulièrement peut-être pour la Lozère.
Alors, concernant les décrets d'application, on attend également la création d'un contrat type d'un contrat de bail type, donc qui devrait assurer une certaine sécurité pour les propriétaires et également les locataires, ainsi qu'un état des lieux type qui serait défini par décret et préétabli à l'avance. Donc ça, c'est quelque chose qui est attendu aussi. Donc c'est pareil, soumis à à la parution des décrets.
Ah, c'est toujours pour les personnes physiques, ça ne prend pas en compte le fameux cas de la location et du bail associatif, non ? Il y a une réponse à cette question-là ?
Non. On parle bien des rapports locatifs
voilà, avec,
pour le logement.
Pour le logement, voilà. On est d'accord.
Il est taquin, ce Guillaume. Hein ?
Oui, non, mais bon, c'est notre situation personnelle. C'est alors ça.
J'ai 48 FM locataires.
C'est ça.
Il y a quand même quelques mesures qui sont applicables dès aujourd'hui. Effectivement, on a quand même du contenu dans la loi et certains articles s'appliquent dès aujourd'hui. Donc je pense notamment à la trêve hivernale des expulsions locatives qui jusqu'à présent s'étendait de la période du 1er novembre au 15 mars et qui est donc par la loi Allure prolongée jusqu'au 31 mars de chaque année. Donc c'est 15 jours de plus, c'est vrai que ça peut paraître peu, hein, une mesure un peu anecdotique, mais je pense que c'est quand même important de le souligner. Je rappelle simplement que cette trêve hivernale, c'est-à-dire l'interdiction d'expulser des locataires pendant l'hiver, ne concerne que les contrats de location qui ont été résiliés par une décision du tribunal. C'est-à-dire qu'on peut... et l'expulsion par huissier ne peut pas avoir lieu pendant cette période-là, mais on peut tout à fait... donner ou recevoir un congé et quitter un logement pendant l'hiver. Voilà.
On n'est pas obligé de rester dans son logement l'hiver, mais si il y a une décision de justice qui le prévoit, on attend la fin de la trêve. Beaucoup de foyers sont concernés par cette situation en Lozère ?
En Lozère, c'est vrai qu'on est, je crois qu'on est dans le top 5 des départements français où il y a le moins de décisions d'expulsion ramenées à la population. Hein. Donc on est plutôt préservé. On le doit effectivement à une bonne politique locale de prévention des expulsions locatives. C'est vrai qu'on est, y a des acteurs qui se connaissent, qui travaillent ensemble. Donc c'est vrai que la prévention fonctionne bien. En plus, on le disait, c'est pas une zone tendue, donc on arrive à trouver des solutions de relogement. Malgré tout, il y a des situations pour lesquelles on ne trouve pas de solution. Il y a des décisions d'expulsion qui sont prononcées. Et même parfois, ça va jusqu'au concours de demande de la force publique. Donc voilà, on en a peu, mais il y en a quand même. Et il faut pas, il y en a toujours, même s'il n'y en a qu'une, c'est toujours une de trop. Et donc il faut agir collectivement contre les expulsions.
Et donc la DIL, ne pas oublier que, voilà, que ce rôle, vous pouvez aussi l'accompagner en prévention avec, je suppose, d'autres associations. Mais on n'oublie pas d'aller voir la DIL quand on est en situation, quand tout va bien aussi. Hein, c'est bien de venir vous voir, mais aussi quand ça devient plus critique. Vous avez plus de travail avec cette loi, la DIL, là ? Comment ça se passe ? Vous voyez ça comment ?
On a des cernes, c'est ça ?
Non. Est-ce que ça fait aussi, ça vous concrétise-vous votre travail dans l'accompagnement peut-être de cette loi ?
Mais c'est-à-dire que nous, ça nous oblige à, dès lors qu'on a une question, à rechercher justement si dans la loi il y a quelque chose qui évolue ou pas, parce qu'on avait des réflexes de répondre du tac au tac à une question, et au final il faut maintenant se forcer à rechercher si la loi ne modifie pas cet aspect-là.
Effectivement.
Et s'il y a 170 articles, effectivement, ça prend un petit peu de temps pour vérifier.
Donc ne soyez pas étonnés quand vous appelez la DIL, là où avant vous répondez rapidement, aujourd'hui on va peut-être prendre un petit peu plus de temps. Voilà, c'est du fait de cette nouvelle loi qui nécessite de chercher un peu plus l'information.
Mais dans peu de temps, vous serez totalement opérationnel.
Bien sûr.
On se fait aucun souci.
Bon, alors peut-être d'autres propositions de la loi Allure qui rentrent en vigueur ? Non ?
Moi, je pense qu'il y a un aspect qui est assez important, c'est que la loi a créé de nouvelles conditions qui permettent de bénéficier d'un préavis réduit pour le locataire, s'entend. Donc, en fait, le locataire a un préavis de 3 mois en location non meublée. Et la loi a créé de nouvelles conditions qui lui permettent de bénéficier d'un préavis réduit à 1 mois. Ce sont pour les locataires qui bénéficient de logements sociaux, les bénéficiaires de l'allocation adulte handicapé également, les personnes dont l'état de santé justifie un changement de domicile, ceci doit être constaté par un certificat médical bien sûr, et dans les zones tendues où un encadrement des loyers est prévu. Voilà, donc ça ce sont des nouveaux cas qui permettent de bénéficier d'un préavis réduit à 1 mois.
Et alors je précise que ça va concerner les contrats conclus à compter du lendemain de l'apparition au journal officiel de la dite loi Allure, c'est-à-dire les contrats conclus depuis le 27 mars 2014. Et voilà, et pas tous les contrats en cours. C'est-à-dire que là, c'est pareil, une personne qui va nous contacter pour nous dire, bah, voilà, je suis dans telle situation, est-ce que je peux bénéficier d'un préavis réduit à un mois ? Ben, il faudra qu'on connaisse précisément la date de signature du bail pour savoir si on est sur le régime antérieur ou sur le nouveau régime. C'est un exemple concret des difficultés. Enfin, voilà, nous, en tant qu'ADIL, on est là pour faire connaître les dispositifs, hein, faire connaître la loi, donner de l'information juridique. Et voilà, du coup, il nous faut un peu plus d'informations pour donner une réponse précise.
D'accord. Alors, vous allez nous parler aussi de la colocation, non ?
J'y vais. La colocation, bah effectivement, hein, la loi Allure, là aussi, elle vient combler un vide juridique, puisque jusqu'à maintenant, on n'avait pas de précision sur la colocation, on n'avait pas de définition, il n'y avait pas un statut juridique particulier. Donc c'est vrai qu'on bah on faisait avec les dispositifs existants et on essayait de bricoler des petites...
Oui, et puis c'était ni confortable... pour les propriétaires ni pour les locataires au final.
Oui, tout à fait. C'est vrai que c'était de l'insécurité juridique. Donc aujourd'hui, avec la loi Allure, on a vraiment un statut de la colocation avec une définition précise de qu'est-ce qu'est la colocation. Hein, donc le fait de louer à plusieurs un logement à titre de résidence principale avec un même bail, etc. Et on va avoir là aussi un contrat type colocation. Donc on attend le décret qui va venir nous le fournir. Voilà, un contrat type avec des clauses types. Là aussi, il y a un système de solidarité en fait entre les colocataires, hein, puisque tous les colocataires sont solidaires pour le paiement du loyer, des charges, de toute somme qui pourrait être due au bailleur. Alors, sans rentrer trop dans les détails, mais le colocataire qui voulait quitter le logement pour une raison X ou Y, il donnait congé, mais il restait solidaire du paiement des loyers jusqu'à la fin du bail en cours. Donc si c'est non meublé, c'était jusqu'à la fin des 3 ans en cours. Et puis après, au moment du renouvellement, on n'était plus solidaire. Mais là, maintenant, la loi vient préciser que s'il y a un nouveau locataire qui se substitue à celui qui vient de partir, ça enlève, ça arrête la solidarité pour celui qui est parti. Donc,
oui, c'est logique, quoi.
C'est logique, tout à fait. Le droit suit la logique. Et donc, voilà, ça vient clarifier un petit peu les dispositifs.
Oui, non, c'est juste que si ça vous a paru un peu compliqué tout ça, vous pouvez quand même continuer à appeler ADIL.
Non, mais c'est bien la colocation, c'est vrai qu'il y a de plus en plus de gens, et pas forcément que des étudiants qui font appel à ce type d'usage finalement de logement.
Et... Partager un logement pour partager les coûts, effectivement, avoir peut-être un logement un peu plus grand que ce qu'on pourrait avoir par ailleurs si on louait tout seul. Donc c'est vrai que ça présente un certain nombre d'avantages, peut-être en colocation. Mais voilà, il y avait un petit peu d'insécurité juridique, donc grâce à la loi Allure, ça va être beaucoup mieux.
Des auberges espagnoles partout.
Alors après, d'autres principes que donne cette loi Allure ?
Ah. On aurait fait le tour. Ouais.
Non.
Enfin, on peut parler peut-être des détecteurs de fumée.
Détecteurs de fumée.
Faire une émission spécifique sur les détecteurs de fumée. Je ne sais pas s'il y a quelques mois. Et ben, la loi Allure, elle parle aussi des détecteurs de fumée et elle modifie quand même d'une manière importante cette obligation d'installer des détecteurs de fumée qui, je le rappelle, entre en vigueur le 8 mars 2015, donc dans un peu moins d'un an. Il faudra que tous les logements soient équipés d'un détecteur de fumée. Et jusqu'à présent, en fait, la loi de mars 2010 qui avait instauré cette mesure de sécurité nous disait que c'était à la charge de l'occupant. Et ben, renversement de situation. Voilà, maintenant, la loi Allure nous dit que ça sera à la charge du propriétaire. Donc, mesdames et messieurs les propriétaires, installez des détecteurs de fumée dans les logements que vous mettez en location. Puisqu'effectivement, aujourd'hui, cette obligation incombe au propriétaire alors que c'était prévu que ça incombe à l'occupant.
Et ça, c'est en mise en œuvre immédiate ou il faut attendre la fin du bail ?
Alors, c'est l'obligation, c'est pour le 8 mars, c'est ça ?
Voilà, 2015. Mais pour les baux en cours, l'obligation du propriétaire sera satisfaite s'il fournit à son locataire un détecteur de fumée ou s'il lui rembourse l'achat du détecteur de fumée.
D'accord.
Mais il faudra que ce soit fait avant le 8 mars 2015, effectivement, voilà.
Et comment ça se passe pour justement un propriétaire qui doit intervenir, faire des travaux, donc justement installer un détecteur de fumée dans un logement ? Comment ça se passe? Qu'est-ce qu'il a le droit de faire finalement dans le logement qu'il a donné en location? Est-ce qu'il a le droit de rentrer? Comment ça se passe?
Alors là, ce que prévoit la loi, effectivement, ce que disait Mathilde, c'est qu'il suffit de fournir le détecteur. Le bailleur n'a pas l'obligation de l'installer. Donc du coup, effectivement, il n'a pas l'obligation de rentrer. Et dans l'absolu, il faut savoir que le locataire est libre de refuser l'accès à son propriétaire, à son domicile, sauf... raison vraiment impérieuse, mais c'est, sinon ça pourrait être considéré comme une violation de domicile.
D'accord. C'était l'occasion de
parler. Quand c'est pour des travaux d'amélioration, oui, en général, ça se passe bien quand même.
Non, non, mais c'est important parfois de se dire bah, oui, mais le propriétaire vient espionner ce que je fais chez moi en profitant d'installer le truc. Enfin, voilà, c'est important aussi d'avoir peut-être ce regard-là.
Ça sent le vécu, Guillaume.
Non, non, du tout.
Tu fais quoi chez toi?
Du tout.
Tu fais quoi chez toi?
Non, en plus, ma propriétaire habite très loin. Donc. Je suis assez tranquille.
On profite pour la saluer.
C'est ça.
Et qu'elle n'oublie pas les détecteurs de fumée, parce que maintenant, c'est pour elle.
C'est ça.
Ah, donc c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de mesures dans cette loi Allure. Là, on a axé sur les rapports locatifs, mais voilà, sur chaque titre, il y a quand même beaucoup de choses à dire. Hein. Je pense à la prévention des expulsions, aux professions immobilières, etc. Donc on ne peut pas tout développer, puis on ne s'est pas encore tout approprié, hein, il faut le dire. C'est vrai qu'on y travaille, on se forme pour être le plus opérationnel possible. On organisera prochainement des réunions d'information à destination du grand public sur les dispositifs de soins pour que chacun puisse être informé des nouveautés et puisse effectivement appliquer les mesures de la loi Allure. Bon, nul n'est censé ignorer la loi, mais enfin, voilà, participera à l'information.
Mais c'est votre mission que d'informer sur justement tout le contexte réglementaire, mais aussi toutes les aides qui peuvent être apportées au logement.
Tout à fait. Et j'en profite, du coup, pour faire la pub de la DIL, mais on vient de mettre en ligne notre nouveau site internet.
Oui, j'ai vu ça.
Voilà, il y a quelques jours. Mm-hmm. Donc l'adresse mail n'a pas changé, www.adil48.org, où vous retrouverez effectivement une analyse juridique très approfondie de la loi Allure. Donc n'hésitez pas à vous y référer, à la consulter. Et puis, il y a également plein d'informations locales, notamment sur les dispositifs d'aide à l'amélioration de l'habitat qui existent sur le département, sur les dispositifs de prévention des expulsions. Enfin, voilà, il y a plein de choses. Donc, n'hésitez pas à y aller.
On retrouve toujours le recensement des lotissements existants. Non, ça n'existe plus, ça?
Ça va arriver.
Ça va arriver, d'accord.
Voilà, c'est des questions de paramétrage informatique, mais ça va arriver.
D'accord, bon, j'ai posé les questions piège.
C'est ça.
Bon, ben c'est super. Ben, on va découvrir ce nouveau site, retrouver toutes les informations. Et puis, on peut vous rappeler aussi que vous faites des permanences régulières.
Toujours, donc des permanences physiques, donc une fois par mois à Langogne, Marvejols, Florac et Saint-Chély, hein, donc retrouvez toutes les dates sur notre site internet. Et puis on fait également des visio-permanences, on pourrait appeler ça, grâce au relais service public. Donc là, il y a 9 plateformes sur le département, donc n'hésitez pas à consulter vos relais services publics pour prendre un rendez-vous en visio avec la DIL.
Ouais, donc ça fonctionne par rendez-vous. Il faut prendre rendez-vous.
Ça fonctionne par rendez-vous, tout à fait.
Il faut prendre rendez-vous avec le relais de service public, maison de l'emploi, relais de service public, ou plutôt avec vous?
L'un ou l'autre. Voilà. D'accord. Nous, on se coordonne ensuite entre nous, donc soit avec la conseillère, l'animateur du relais de service public, et puis qui nous contactera pour qu'on valide la planche horaire, soit auprès de la DIL, et puis nous, on fera le relais avec la maison de l'emploi. Voilà, ça fonctionne bien.
Ok, donc on rappelle vos horaires d'ouverture, vos contacts. Donc le nouveau site adil48.fr
.org. Voilà. nos locaux, donc on est situé dans l'immeuble Foch, au 12 bis avenue Foch à Mende. Vous pouvez nous joindre au téléphone 04 66 49 36 65. Nous envoyer un mail adil48@orange.fr. Consultez notre site internet. Voilà, on est ouvert tous les jours sauf le vendredi après-midi. Et nos horaires, c'est 8h45, 12h30, 13h15, 17h30, avec ou sans rendez-vous.
Bah comme ça, on a tout vu.
On a toutes les infos, c'est parfait.
On a tout vu, et puis comme il y a quand même quelques articles et décrets qui ne vont pas tarder à arriver, ça sera l'occasion de vous réinviter.
Avec plaisir.
Voilà, et puis on aura l'occasion aussi de relayer dans les infos locales vos futures dates de réunion d'informations que vous pourrez faire dans les prochaines semaines.
Ben merci beaucoup, c'est noté, on vous fera passer ça.
Bien, alors on fait une petite coupure musicale, on se retrouve tout de suite après avec Jacques Vaquier de l'Observatoire de la laïcité.
48 FM Le Mag.
Et voilà, on se retrouve pour la deuxième partie de ce 65e Mag de 48 FM et on retrouve donc Jacques Vaquier de l'Observatoire de la laïcité de Lozère. Et voilà, l'occasion notamment d'une conférence débat qui a lieu ce soir sur le thème « L'école et la laïcité ». Mais on va d'abord parler de ce qu'est finalement cet observatoire et puis peut-être un petit peu plus globalement de la laïcité. Alors déjà peut-être dites-nous
oui, bonjour.
Voilà, et dites-nous qui vous êtes finalement cet observatoire de la laïcité. Voilà.
Oui, l'observatoire de la laïcité a été créé en Lozère en 2009. Il existait d'autres observatoires, notamment l'observatoire du Pays d'Aix dans les Bouches-du-Rhône, qui nous ont servi d'ailleurs pour établir nos statuts et pour faire l'exemple lozérien. Mais cet observatoire de la Lozère a été un des premiers aussi en France. Depuis, nous avons été limités au moins dans deux régions de l'Hérault, également dans le Calvados, etc., dans d'autres départements, où on nous a demandé nos statuts pour faire créer un observatoire. Cet observatoire, il est venu simplement de déclarations du président précédent, le président Sarkozy, qui a mis en doute la capacité pour les enseignants, en principe, d'enseigner la morale par rapport aux prêtres ou aux pasteurs. Il a fait cette déclaration à Rome, au Latran, lorsqu'il était reçu par le pape. Ça a beaucoup choqué dans les milieux laïcs, hein, en considérant que la République était une République laïque. Dans l'article 1 de la Constitution, il est précisé que la France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale, le mot figure en toutes lettres, et parmi les lois organiques, nous avons une loi, qui est celle de 9 décembre 1905, qui est une loi de séparation des Églises et de l'État. Alors il faut s'expliquer là-dessus. La laïcité, ce n'est pas le refus des religions, loin de là. La laïcité, c'est ce qui permet aux religions de s'exprimer librement dans ce pays. C'est la liberté pour chaque citoyen d'avoir une religion, de ne pas en avoir, ou de ne pas savoir, ou d'être agnostique, athée, agnostique, c'est-à-dire on ne sait pas si Dieu existe, mais on peut vivre sans. Bon, donc il y a tout un panel de populations qui ne sont pas obligatoirement rangées dans des religions chrétiennes, musulmanes, juives, etc. Nous avons aussi, parmi les points importants de la laïcité, le fait que nous refusons toute manifestation que nous connaissons actuellement contre l'islam. Nous trouvons anormal qu'une religion soit stigmatisée dans cette République où tous les citoyens ont le droit, depuis la Déclaration des droits de l'homme, nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leurs manifestations ne troublent pas l'ordre public établi par la loi. La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme. Tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement. Cet article de la Déclaration des droits de l'homme est pour nous essentiel. La France a une liberté que beaucoup nous envient et que nous voulons préserver au maximum. Dans la Constitution, on dit qu'elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens, sans distinction d'origine, de race, de religion. Elle respecte toutes les croyances. C'est ça la laïcité.
Alors, concrètement, l'Observatoire de la laïcité de Lozère, qu'est-ce qu'il fait comme action, justement, pour défendre cette laïcité que vous venez de nous définir, d'une certaine façon ?
La laïcité, l'Observatoire a été créé par 14 organisations, sur le plan départemental, des associations aussi diverses que l'association ADATEP, qui est le transport d'enseignement public des enfants, les pupilles d'enseignement public, mais également le Grand Orient de France, la prévention Maïf, les autonomes de solidarité, les éclaireurs et éclaireuses de France, la libre pensée, la FCPE, la Ligue de l'enseignement, Fédération des œuvres laïques, les syndicats FSU et UNSA, la mutuelle accident élève, l'OCCE, qui est une association interne aux écoles, et les délégués départementaux de l'éducation nationale que je préside. Et c'est à cause de cette présidence que je suis aujourd'hui président de l'Observatoire.
D'accord, donc il y a quand même un lien fort avec l'école, de ce que vous nous dites là, notamment de...
C'est vrai. Nous n'avons pas que votre question, c'était aussi quelles autres questions de toutes les questions de société et même des questions internationales, parfois. Par exemple, nous sommes intervenus très fortement pour soutenir la loi sur le mariage pour tous, considérant qu'il s'agissait là d'un élargissement des libertés et que c'était quelque chose de positif. Nous sommes pour élargir les libertés et non pas les restreindre dans ce pays. Nous intervenons aussi, par exemple, en cas de décès, et de demander les obsèques civiles. Nous avons fait, dans le département, une intervention auprès des mairies. Et nous avons été suivis par une trentaine de mairies, et pas des moindres, dont Saint-Chély, Marvejols, pour citer Florac, donc pas que des petits villages, mais aussi des petits villages comme Saint-Symphorien, tout à fait au nord, ou Ribène, au milieu du département. Des communes qui ont accepté de mettre à disposition des familles gratuitement une salle pour organiser les obsèques civiles. Ou des obsèques, d'ailleurs, d'une autre religion que celles qui sont représentées dans leur commune. Parce que ça peut être aussi bien pour des obsèques dans le culte hébraïque comme dans le culte musulman, qui n'est pas de salle et qui n'est pas de possibilité. Donc c'est mettre à disposition des familles un lieu pour se recueillir en cas de décès.
Donc concrètement, l'Observatoire va négocier, va sensibiliser, c'est de la sensibilisation auprès des élus.
C'est ça. Nous avons fait un courrier d'abord à tous les élus, et puis nous sommes intervenus auprès de la préfecture, intervenus auprès du conseil général, reçus par ces instances, et puis nos adhérents interviennent auprès des communes, auprès des maires et des conseillers municipaux. Ce que nous allons reprendre, nous avions un peu ralenti du fait des municipales, mais nous allons reprendre maintenant avec les nouvelles équipes qui sont mises en place.
Oui, vous nous parliez que dans la campagne, en l'occurrence sur Mende, vous étiez cher à une des promesses sur...
Tout à fait. Nous étonnions de voir que pour avoir une crémation, il fallait aller ou à Alès ou à Clermont-Ferrand. Les trois listes en présence à Mende, par exemple, ont prévu dans leur programme la création d'un crématorium sur Mende, et je pense que c'est une bonne chose, serait centrale par rapport au département, et permettrait aux familles d'obtenir ce genre de pratique qui est de plus en plus répandue et de plus en plus justifiée au niveau écologique.
On le voit du coup, mais on n'est pas surpris, la laïcité est transversale à notre vie au quotidien, donc vous intervenez sur de nombreux sujets. Ce soir, c'est tout particulièrement sur la question de l'école que vous organisez une conférence débat où vous invitez Eddy Kaldi, qui vient, je crois pas pour la première fois en Lozère, ça va devenir un habitué. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette conférence ?
Oui. Ce n'est pas effectivement la première fois qu'Eddy vient en Lozère. Nous avons, évidemment, par rapport à l'école, une implication forte. D'abord parce que nos associations sont beaucoup sorties du milieu scolaire, mais aussi parce que l'école est pour nous fondamentale pour expliquer aux enfants ce que c'est que le vivre ensemble et permettre que tous les enfants, de quelle couche sociale qu'ils appartiennent, à quelque religion qu'ils appartiennent, de quelque origine qu'ils soient, puissent être ensemble et se rencontrer. Il y avait avant aussi le service militaire qui permettait aux jeunes hommes de se croiser, et comme ça, au niveau des couches sociales et au niveau des origines, etc., était une façon de se rencontrer. On n'existe plus, il ne restait à l'école. Je parle d'école depuis la maternelle jusqu'à l'université, bien sûr. Tout le panel du cursus scolaire qui peut permettre de se rencontrer. Alors, Eddy Kaldi, oui, ce sera la troisième fois qu'il vient à Lozère. C'est un enseignant, militant syndical, ça, qui est aussi un délégué départemental d'éducation nationale. Et Eddy Kaldi a écrit deux ouvrages très importants, à mon avis, pour qui s'intéresse à l'école. Son premier ouvrage, qui était paru dès 2008, fin 2008, était même basé sur l'école publique. Il s'agissait là de stigmatiser les mesures qui étaient prises depuis la loi Debré, et notamment par le dernier gouvernement, du quinquennat précédent. Il a écrit ses livres chaque fois avec une journaliste du Canard enchaîné, Muriel Fitoussi. Il était intervenu donc en février 2010 en Lozère à propos de la parution d'une loi qui s'appelle la loi Carle. C'est un peu plus technique, c'est simplement la volonté de faire payer les communes pour des enfants, alors que ces communes ont une école sur place, pour des enfants qui vont à une école privée dans une autre commune, un peu plus loin. Il est intervenu également en 2012, février 2012, sur la République contre son école, c'était encore sous le quinquennat précédent. Et nous voulons faire aujourd'hui un point avec lui sur, depuis mai 2012, au niveau de la laïcité, que s'est-il passé dans l'école ? Il y a eu des avancées, dont une que nous avons portée avec tous les, avec tout un tas d'organisations au niveau national, c'est-à-dire le fait d'afficher la, la devise républicaine, liberté, égalité, fraternité, sur toutes les écoles. Nous aurions souhaité qu'on y ajoute laïcité, mais en fait, certaines communes peuvent le faire. Au moins, c'est la devise républicaine. Ceci est passé dans les textes. Et il y a eu la, la proclamation d'une charte de la laïcité à afficher dans les écoles, ce qui était pour nous une avancée, c'est sûr. Par contre, nous avons vu les rythmes scolaires auxquels nous sommes, pour lesquels nous sommes tout à fait favorables, l'amélioration des rythmes, à s'accompagner d'un texte sur les activités péri-éducatives. Et là, nous avons un peu plus d'inquiétude, on en parlera ce soir, dans la mesure où ces activités péri-éducatives qui sont faites hors temps scolaire seraient financées aussi bien pour le public que pour le privé. Alors se pose là le problème du financement du privé, auquel on donne des avantages de l'école publique en général, mais qui, lui, n'applique pas les textes. Puisque là, par exemple, les demi-journées vont se passer sur 5 jours de classe, eh bien, l'enseignement privé, non, continuera à 4, refusant d'appliquer la loi, considérant qu'ils sont... Alors, la question qui nous est posée est de savoir si on peut être en même temps dedans et dehors.
Oui, sachant que les financements ça s'appliqueraient que pour ceux qui le mettraient en œuvre, de toute façon.
Bien sûr, heureusement. Maintenant, sans aucun contrôle aussi. Quelles activités et qui pratique ces activités, même sûrement, là, nous avons eu quelques soucis.
Donc là, vous avez un nouveau ministre pour l'éducation nationale, là aussi, des attentes fortes, peut-être.
Ça va, tout à fait, avec des attentes
fortes. Ça vous a pas échappé.
Attentes fortes que nous avions d'ailleurs depuis... 2012, hein, et qui, pour certaines au moins, n'ont pas été satisfaites du tout. Nous avons, par exemple, le statut d'Alsace-Lorraine. Alsace-Moselle, du fait de la 1870, et du fait qu'il n'était pas inclus dans la France au moment où a été votée la loi de 1905, malgré la guerre de 14, quand la Lorraine et l'Alsace, et le département, la petite partie de la Moselle, fait partie de la Lorraine, qui a été rattachée à la France, à ce moment-là, les lois ne se sont pas appliquées. Elles ne s'appliquent pas non plus en Guyane, par exemple. En Guyane française, les écoles catholiques sont considérées comme écoles d'État. Elles sont payées et sont incluses dans le système éducatif. Alors, c'est pas peut-être... On peut discuter de la chose, mais auquel cas, il faut appliquer les textes. Il n'est pas normal que la République organise la concurrence en son propre service public. Là, c'est ce qui se passe. On organise la concurrence entre l'école publique et une école confessionnelle partisane et différente.
Donc, pas que des combats lausériens, des combats...
Oui, beaucoup plus larges, tout à
beaucoup
fait.
Beaucoup plus larges, mais vous tout l'aviez...
Mais lausériens aussi, pour certains d'entre eux qui sont proches. Nous avons, par exemple, un combat très large sur le darwinisme. Il y a une reprise énorme du créationnisme, c'est-à-dire les gens qui croient que la Terre a été créée selon les principes de la Bible... respectables, mais qui ne sont qu'une histoire, qui date de fort longtemps. Le darwinisme, c'est-à-dire l'évolution des espèces, est nié par de plus en plus de personnes. Donc nous avons eu, dès 2009 d'ailleurs, dès la première année, nous travaillons souvent en partenariat avec d'autres associations, et là nous avons travaillé en partenariat avec la bibliothèque Lamartine de Mende. Nous avons fait venir, pour l'effet Darwin, un chercheur qui s'appelle Patrick Thor, et nous avons eu une exposition. Cette exposition, nous l'avons toujours en Lozère. Nous la faisons tourner gratuitement pour les communes ou les cantons, les organismes qui veulent l'exposer en Lozère. Et nous la faisons tourner également autour. Nous l'avons exposée à la demande d'établissement du second degré à Clermont-Ferrand, dans le Cantal, dans la Haute-Loire, etc. Donc nous avons à la fois des activités très départementales et des activités qui débordent sur des sujets qui sont très variables, mais qui dépendent tous de la laïcité et du vivre ensemble.
Bon, alors et ce soir, on vient vous voir où, quand, comment ? Alors,
c'est Salle Urbain 5,
à partir de
17h15.
Donc il faut sortir tôt du travail pour venir vous voir. Hein.
Comment ?
Il va falloir sortir tôt du travail pour venir vous voir.
Oui, mais c'est à partir de 17h15.
Bon, on peut arriver avec un peu de retard ?
Tout à fait. Nous commençons d'ailleurs par une petite projection de 4 minutes d'un petit film, et puis la présentation d'Eddie Caldi. Donc, il y a toujours un démarrage un retard à l'allumage, on dit.
Bon, très bien. Donc, tout le monde
donc
peut
ce sera à partir de 17h15, l'entrée est libre et gratuite. Et c'est un débat. Il y aura une conférence, plus de débat.
Donc, salut Urbain 5.
On pratique ça régulièrement.
Salut Urbain 5, ce mardi 15 avril. Voilà, donc pour ceux qui nous entendront lors des rediffusions, ne vous inquiétez pas, ce sera trop tard. Voilà.
Mais donc, il reste la possibilité de joindre l'observatoire.
Voilà, c'était ça la question
que j'allais vous poser. Auquel on peut adhérer, y compris individuellement.
Quelle transition.
Alors comment on fait ? Comment on fait pour vous contacter ?
Bien, c'est tout simple. On peut prendre contact donc, avec les associations constitutives, mais également on peut me joindre, dont Jacques Vaquier, 21B rue des Fleurs à Mende. On peut me joindre par téléphone au 06 79 81 17 74.
Vous prenez des gros risques là quand même. Vous savez qu'on est quand même très écouté. Vous allez avoir votre 06 qui
et
va
nous
exploser.
Avons un site. Nous avons un site internet.
Vous prenez moins de risques.
C'est www.oll.org.
Oll.org.
Comme observatoire de la laïcité en Lozère. Enfin, de Lozère.
De Lozère. Sachant que. Nous publions aussi, mais à l'interne et par Internet uniquement, les cahiers de l'OLL, sachant que nous avons donc, vis-à-vis de nos adhérents, une diffusion importante et de communiqués de presse et de documents.
Très bien, donc on peut adhérer à l'association en vous contactant ou via le site Internet.
Voilà, c'est 10 euros
minimum.
Et 25 euros pour les associations.
D'accord.
Merci écoutez, beaucoup. Merci beaucoup pour cette présentation. On va faire une deuxième coupure musicale et je vais laisser ma place à Ludovic. Et donc, je vous souhaite à tous une bonne journée. Mais on continue, bien sûr, le MAG avec la Mostra et Laurent Joyeux qui est là et qui va nous parler de ce lèche-vitrine d'art contemporain. Et tout de suite, une petite pause musicale.
À très vite, Guillaume.
Là où j'habite, c'est pas grand et pas bien luxueux, mais j'aime bien. C'est des apartés, au milieu, il y a une cour toute petite. Là où j'habite, les voisins sont jamais loin. Tous les jours, on se fait bonjour, et dans son coin, chacun s'agite. C'est sympa là où j'habite, bien côté cosmopolite. Un petit parfum d'Afrique, parce que parmi mes voisins, il y a une famille de Guinéens. Chaque fois que je les croise, c'est magique. Ils parlent français et malinqués dans leur boubou en bassin. La France d'en haut balance des phrases sur des bruits et des odeurs. Moi, je vois ces gens polis, travailleurs, presque toujours de bonne humeur. Le père a l'air de bosser dur et tard, et le soir, ses enfants s'amusent dans la cour. Ou sur le trottoir, ils ont des jeux de gamins. Et quand ils crient un peu trop fort, y'a la maman jamais très loin derrière. Elle leur fait signe de se taire. Là où j'habite, juste là où j'habite. Là où j'habite, juste là où j'habite. Là où j'habite, juste là où j'habite. Là où j'habite, y'a le voisin du numéro 3. Alors lui, c'est un cas emmerdeur comme pas deux et 100% gaulois. Il est debout bien avant le soleil, il voudrait qu'on fasse tous pareil. Du coup, dès qu'il se réveille, il fonce dans la cour sans prendre à nos oreilles. Allez debout, les sales nègres, je vous emmerde, bande de feignants. Et il frappe sur leur porte et il les insulte allègrement. Et personne dit rien, et moi non plus, forcément, parce qu'il est méchant. Ça, c'est sûr, c'est un cauchemar pour le voisinage. Mais si tout le monde le ménage, c'est qu'il a une maladie des méninges. J'en pourrais cogner dessus, ça le rendrait pas plus sage. Mais lui, pour qu'il le vire, il faudrait qu'il tue quelqu'un. Et quand je l'entends gueuler, des fois, je me dis qu'il va pas tarder à y venir. Mais les négros, comme il dit, entre chez eux et chez lui, le mur il est épais comme du papier. Et lui il a des insomnies, alors même la nuit c'est une teigne. Et eux ils subissent tout le temps ces conneries, et jamais ils se plaignent. Là où j'habite, juste là où j'habite. Là où j'habite, juste là où j'habite. Là où j'habite, juste là où j'habite. Là où j'habite. Là où j'habite, c'est petit, mais c'est pas ça le pire. Un jour gêné, le père Guinéen vient me voir avec un papier à me faire remplir. Sinon lui et sa famille, ils allaient devoir partir. Ben ouais, des papiers, ils en avaient pas assez pour rester en France et on les menaçait d'être expulsés. Ils avaient reçu un courrier de monsieur le ministre de l'Intérieur signé Nicolas en personne. Et Nicolas, dans son paplard, il emploie un ton autoritaire à faire peur. Et moi je me demande plus si ce gars-là a des rêves de dictateur. Nicolas, c'est aux voisins qu'il demandait d'attester que les Guinéens étaient intégrés et qu'ils méritaient de rester. Moi, ça m'a fait penser au passé. À une autre époque, on avait demandé aux voisins de dénoncer. Ça avait fini avec des étoiles jaunes, mais c'est comme ça que ça avait commencé. Là où j'habite, juste là où j'habite. 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 Et puis un jour, mes voisins sont partis. les a jamais revus, on les a ramenés en Guinée, parce que de toute façon, les papiers à faire signer, c'était pour les recenser, pas pour qu'ils puissent rester. Mais le gars du numéro 3 est encore là, il a plus de nègres à insulter, mais lui, on peut pas le virer. Il est gaulois, il a des droits, pour lui, il y a des lois. Là où j'habite maintenant, ça craint, il y a toujours l'autre pour nous faire chier, mais il y a plus de gamins dans la cour, plus de malinqués, plus de bazins. Elle est pas drôle, mon histoire, elle est même triste, mais elle est authentique. Et j'ai pas été la chercher bien loin, tout juste là où j'habite. Juste là où j'habite. Là où j'habite. Juste là où j'habite. Là où j'habite. Juste là où j'habite. Là où j'habite. Juste là où j'habite.
48 FM Le Mag.
Et nous revoilà pour la troisième partie avec Ludo à la technique qui nous remplace Guillaume et qui vient me sauver. J'ai eu un moment de panique avec tous ces boutons.
Oui, salut Fred.
Salut.
Il n'a pas été très bon Guillaume, alors on le remplace.
C'est ça.
C'est comme ça, ici à 48 FM.
Comme ça, il est bénévole, on ne rigole pas. Et donc, on accueille pour cette troisième partie la Mostra de Mende. Avec donc Laurent Joyeux.
Bonjour.
Bonjour Laurent. Et vous allez nous parler donc de cette troisième édition de Lèche Vitrine d'art contemporain. On discutait pendant la musique, qui est quasi unique en France, dans le monde, cette formule-là. Vous pouvez nous présenter peut-être déjà très rapidement le principe de cette Mostra de Mende.
Oui, bien sûr. Donc le concept de la Mostra, il est né d'un constat, celui qu'à Mende, comme dans d'autres communes, villes, voire de plus en plus de territoires, les centres-villes se dévitalisent, les vitrines ferment, au profit évidemment des zones en périphérie. C'est le cas à Mende, c'est le cas assez proche ici à Lodève, c'est aussi le cas à Nîmes, paraît-il. De plus en plus de territoires se désertifient, centres-villes se désertifient. Donc de fait, à partir de ce constat-là, nous avons... imaginer pouvoir proposer des œuvres d'art contemporain dans ces vitrines vacantes et les proposer donc aux visiteurs. L'autre concept fort de la Mostra, c'est celui de travailler uniquement dans l'espace public, donc à l'inverse d'un musée ou d'une galerie dont il faut franchir les portes. Là, nous mettons directement en contact, volontaire ou involontaire, et en situation des œuvres qui sont visibles 24 heures sur 24.
Donc on redonne au centre-ville de la vie, en tout cas on y œuvre, c'est le cas de le dire. L'évolution de la formule, est-ce que c'est toujours les habitués du lèche-vitrine, vont-ils voir une évolution cette année?
De toute façon, c'est sûr que la première année, on s'est appuyé sur un prêt d'œuvre du Fonds régional d'art contemporain, c'était une des parties les plus importantes. Et puis d'artistes associés que nous avons invités à présenter des pièces. L'an dernier aussi, nous avions sollicité le Fonds régional d'art contemporain et le Musée régional d'art contemporain de Sérignan pour des prêts d'œuvres, ce qui d'une certaine manière nous a assuré de proposer des pièces de haute qualité, enfin en tout cas qui ont une valeur du point de vue de l'art contemporain, en tout cas des gens des musées. Et pour cette troisième formule, nous sommes uniquement appuyés sur l'invitation d'artistes qui ont donc créé parfois des œuvres spécifiques aux vitrines. Je passais devant Optique 2000, vous verrez la pièce de David, qui a été donc particulièrement in situ, peut-on imaginer. Cet artiste, dont six qui sont donc venus ici durant la semaine précédant le vernissage de samedi dernier, installer, proposer des œuvres, les mettre en situation, choisir des vitrines, enfin bon, voilà, être dans un dialogue, je dirais, avec la rue et avec le cœur de Mende.
Un nouveau thème pour cette année?
Oui, bon, le premier était la poétique du quotidien, le second, le réenchantement poétique aussi. Et de fait, cette année, puisque sur les deux premières éditions, nous avions pu constater qu'un certain nombre de pièces fonctionnaient particulièrement bien, soit des pièces lumineuses, éclairées, soit des œuvres. Qui renvoyait à des questions de lumière. Donc nous avons, selon un jeu de mots un peu drôle, appelé cette édition l'éclat des lumières éteintes.
D'accord, oui, oui. Ouh là, oui. Ouh, Joli.
Compris, Héloïse, c'est bon ?
Non. C'est clair.
C'est clair, c'est... Bon, c'est lumineux. C'est...
Voilà.
Les
voilà.
artistes associés, tu parlais, Laurence, et on retrouve des artistes qu'on a pu voir l'an dernier ou pas du tout, on repart non. à zéro
Bah, nous, pour le principe, d'autant plus qu'on travaille sur un territoire relativement vierge, hein, je dirais, vis-à-vis de l'art contemporain, on invite toujours des artistes différents, on ne réinvite pas d'artistes. Notre aire de jeu, entre guillemets, c'est plutôt Auvergne, Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées. On a essayé d'inviter un Suisse, une Suisse cette année. Mais bon, du coup, il y en avait un Suisse quand même, mais qui est installé à près de Montpellier. Et le choix s'est porté donc, sur un certain nombre d'artistes, dont Christine Bollot, qui fait des ateliers hein, dans les EHPAD actuellement. Sylvia, qui a fait une très belle installation sur les échafaudages. Assez subtil, mais qui va être intégré à la cathédrale et qui est soutenu par le curé. Laure Girard, qui est venue d'Auvergne pour faire des installations et des pièces lumineuses, d'attraper la lumière. César Brun, qui fait qui propose une installation interactive, mais qui est à Bruxelles. Donc une œuvre collaborative et participative hein, qui va évoluer au fur et à mesure de la Mostra et qui est d'ailleurs dans les anciens locaux de 48FM. Là. Charlotte Knoll qui a proposé donc l'œuvre séminale à Clignotant. Nicolas Geyser, notre Suisse tout de même, qui lui du coup est intervenu de façon assez inventive dans la ville. Vous verrez au début rue du Chastel, il a vu un panneau, il a investi assez rapidement. Somme qui est un couple dont les œuvres sont aidées par la région Languedoc-Roussillon et qui a intégré une ancienne lumineuse qui normalement est installé dans l'espace public, j'avais pensé en haut de la bibliothèque, mais qui l'a donc, et selon le principe même de la Mostra, dans une vitrine. Et David Sué, qui est donc un artiste qui vit à Mende et qui a investi un certain nombre de vitrines.
Le local de l'étape.
Le local de l'étape, exactement. Nous, on n'est pas du tout ni contre le fait de travailler des artistes lozériens, mais pas non plus, c'est loin d'être une obligation.
D'accord, l'objectif n'évolue pas, c'est toujours de proposer de l'art aux passants au lieu de les inviter à rentrer. Ben voilà, on leur met devant, on pourrait dire devant la figure, cet art contemporain pour les attirer parce que c'est compliqué quand même.
Oui, bien sûr. Donc l'idée c'est aussi de susciter le débat, hein. Donc la controverse, l'adhésion ou le rejet, dans la mesure où, comme vous le savez maintenant, où le 3e édition on a proposé des choses très 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 variées. Donc, il relève quand même d'un éventail de la création contemporaine, donc qui permet effectivement de pouvoir la découvrir, ou en tout cas, évidemment, d'apprécier des pièces ou de ne pas les apprécier. Ce dont je me suis rendu compte, là, pendant toute la semaine d'installation, c'est que y avait une espèce de, comment dire, d'habitude, hein, quelque chose d'assez doux qui s'est mis en place. Et puis finalement, les gens, évidemment, hein, sont critiques, mais c'est le but, hein, je dirais qu'aujourd'hui. Hein,
vous avez des retours, des passants ?
Oui, bien sûr, on a des retours, surtout lors des installations, c'est assez marrant. Beaucoup de curiosité de la part de patients de tous les âges qui finissent par s'habituer. Moi, j'aime beaucoup la présence artistique. De fait, c'est vrai que le temps d'installation est un moment d'échange privilégié. Je pense à David Sué qui s'est fait aider par... pâtissier Bringer pour étaler du sucre sur une pierre de 200 kilos et qui m'a dit, ben oui, là, on voit le coup de main. Quoi. Non, les commerçants ont été vraiment charmants, ils se sont prêtés au jeu. On a un partenariat aussi avec l'Office de commerce qui est très, très important. Et le premier retour, c'est les commerçants qui accueillent les pièces. Donc certains comme je pense au cordonnier l'an dernier, ou d'autres personnes mettent un peu de temps à les saisir, mais du coup, après, les regrettent. Je fais en sorte que les artistes de toute façon prennent le temps d'expliquer leur travail à tous les commerçants. Et en ce qui concerne les propriétaires, je fais aussi en sorte que les artistes rencontrent les propriétaires pour leur expliquer le travail qui est montré. Madame Reversa par exemple, qui accueille Clignotant, a pris le temps avec Charlotte et ils ont parlé du Chili, de la pièce, et du coup c'est pareil, une espèce d'habitude. Après je me parlais ce matin avec monsieur Canery d'Optique 2000 qui lui est ravi de cette installation. Hein, l'installation qui est dans son magasin, qui la trouve belle, qui la sont appropriée, ils pourront l'acheter peut-être.
Ludo.
Oui, ça arrive que des commerçants refusent des œuvres en se disant c'est un peu trop opposé ou j'aime pas ou pas. Non, si ça va au-delà de ça.
Non, ce qui arrive c'est qu'ils soient déçus. On me le dit. Donc de fait, ce que j'ai pu faire cette année, c'est lorsque des commerçants et/ou des propriétaires nous mettaient à disposition des vitrines, c'était leur montrer le travail. Des artistes qu'ils allaient accueillir, de façon à au moins préparer le terrain.
En amont, ouais,
d'accord. Et certaines, dont l'agence Fram, ont choisi un des travaux qui allait être présentée de Nicolas. Sachant que Nicolas avait travaillé spécifiquement sur leur vitrine, avait préparé un document, et donc quand je les ai croisés, je leur ai montré.
Alors, un effet induit quasiment que je découvre en discutant avec vous, c'est que du coup, on a des commerçants qui sont quasi des médiateurs de l'art contemporain, puisque c'est à eux qu'on va finalement faire le retour sur l'œuvre qu'on a aimée, pas aimée.
Ou peut-être demander des explications.
Et finalement, eux qui vont devoir aussi expliquer s'ils en ont eu.
Tout à fait, tout à fait. Alors, ce qui est intéressant, les commerces ouvertes,
les vitrines ouvertes.
Les vitrines ouvertes, c'est que les commerçants ont un dialogue effectivement avec les passants. Donc, je pense à Virginie Gerbaille qui, à l'instant T, qui a des bouts de trucs de Charlotte Knoll, très belle pièce que je trouve assez drôle, une faïence cassée. Donc, évidemment, tout le monde passe. Alors, les filles, vous avez tout cassé, bravo. De la même manière, M. Canéry, Optique 2000, a des commentaires. Bon, il y a aussi des visites guidées, hein, de toute façon. Donc, oui, les commerçants sont des médiateurs. Mais je dirais, le principe même de la vitrine, de l'art, de l'exposition, de cet espace urbain, là, il est particulièrement, finalement, adéquat.
Oui, bien sûr. Les
commerçants ont l'habitude de commercer, d'échanger, de dialoguer. Et je pense que c'est aussi un support ou un prétexte de conversation.
Bien sûr. Alors, on a des spectateurs autour de cette table qui se sont peut-être arrêtés. Monsieur Vaquier, vous avez vu les œuvres présentes ?
J'ai vu en passant, mais je n'ai pas eu le temps encore de m'arrêter et de vraiment faire le tour, ce que je ne manquerai pas de faire.
Et Louis Cos, pareil ?
Alors, pas encore. Et justement, je me demandais jusqu'à quand ça a duré, puisque je n'ai pas encore eu le temps d'aller me promener dans le centre-ville.
Elle me pique mes questions.
Merci, elle est très bavarde. Alors, autre point, c'est vrai que l'an dernier, nous avions une
trois
durée,
semaines,
nous avions une durée de 2 semaines. On a fait évoluer vers 3 semaines, donc 2 semaines en temps scolaire, dans la mesure où nous travaillons avec l'inspection académique, le pays d'art et d'histoire et l'enfance de l'art pour organiser des visites scolaires. Hein, école, collège, lycée et d'autres structures. Et une semaine pendant les vacances. Donc, effectivement, 3 semaines.
Ok, super.
C'est une question.
Donc, il me reste un peu de temps.
Le point important, c'est que nous avons édité un petit parcours qui est disponible à l'Office de tourisme et qui permet une visite, je dirais, un petit peu plus confortable, même si, je dirais, dans le principe, j'ai déposé dans certaines vitrines des grands parcours, des grands plans. Je crois que c'est... en tout cas pour les Mandois et ou pour les visiteurs aussi l'occasion de se perdre dans cette ville et de rencontrer des œuvres ou pas, puisque un des axes forts de cette action, c'est aussi de croiser, je dirais, à la découverte de son patrimoine. J'ai fait une visite guidée l'an dernier avec des détenus qui étaient très, très, très curieux au sujet des différents toits de Mende, de la Loze, des Vierges Noires, enfin... Donc ça, de fait, on la croit. On aime. Moi, j'aime beaucoup cette idée-là, que le touriste... Voilà, il y a des vitrines, mais il y a aussi une ville qui commence à s'embellir, qui continue à s'embellir, me semble-t-il.
Une manière de redécouvrir sa ville, effectivement. Et l'idée du plan support est pas mauvais, parce que je vais faire l'idiot, mais on a dû passer devant des œuvres sans penser que c'en était. Et donc, même si on a été interpellé, et du coup, ça va nous amener aussi à se poser les bonnes questions et avoir un début de réponse, en tout cas.
Oui, c'est un choix en termes de signalétique et en termes de scénographie, finalement, urbaine. Notre choix n'est pas alourdir les vitrines. Ouais, on pourrait mettre des grands... Mais plutôt laisser comme ça, je dirais, certaines pièces un peu discrètes. Mais c'est le but. Et puis, je pense que les artistes aussi apprécient cette façon de respecter les pièces et de ne pas alourdir par une signalétique trop visible. L'an dernier, on a intégré chez le cordonnier... Place Estoup, une petite pièce magnifique de présence panchounette qui était quasi invisible.
Ça fait partie du charme, du coup.
Ça m'a fait beaucoup rire.
Alors, il y a une question récurrente qui se pose sur ce genre de manifestation, sur le land art, sur d'autres choses. C'est est-ce qu'on peut imaginer un jour ces œuvres rester sur Mende, en fait ? Parce que c'est vraiment de l'art éphémère sur un moment donné et qui est appelé à se renouveler. Mais est-ce qu'on pourrait imaginer ces œuvres rester ?
La question que tu poses, c'est celle du concept même et des œuvres pérennes ou éphémères, notamment en termes de land art, mais même en matière je dirais d'art urbain. Il y a plusieurs types de pratiques. Alors, ce que tu évoques, ce serait d'inviter un artiste ou des artistes à créer, effectivement, des œuvres pérennes, donc des œuvres qui seraient ensuite vues et posées dans l'espace urbain pour un moment, peut-on espérer. C'est un concept. C'est un concept qui coûte cher, puisqu'il faut des moyens de production en général assez importants. Et ces œuvres, en plus, qui doivent donc plutôt résister aux intempéries, qui ici ne sont pas une moindre affaire, peuvent avoir des coûts de production assez élevés. Mais c'est envisageable. Je pense que vous me posiez la question tout à l'heure, on évoquait le fait que ce soit une édition, enfin une entreprise, une idée assez originale. Une ville comme Mel en Poitou-Charentes ou d'autres croise ou articule à la fois l'invitation d'artistes, à la fois la création d'œuvres pérennes qui en pré-ponctuent des parcours effectivement de découverte du centre-ville. Ça pourrait être le cas ici. C'est vrai qu'ici, le territoire, il pourrait aussi s'élargir autour de Mende. Hein. Je pense toujours à cette croix lumineuse qui est une œuvre d'art en soi, que les artistes ont beaucoup aimé, hein, qui pourrait être un parcours lumineux entre la croix, la cathédrale, le centre-ville. Mais l'autre jour, je me baladais aussi le long du Lot. Il pourrait y avoir des œuvres le long du Lot. Des œuvres.
Il y a des canards, mais on peut les...
Des canards en plastique, oui, ça pourrait être drôle. Voilà, des pièces que l'on pourrait... On pourrait inviter les artistes à créer effectivement des pièces qui resteraient sur place.
Très bien. Alors, combien de vitrines, combien d'artistes, combien de temps, on l'a dit, mais on répète pour que tout le monde puisse aller voir la Mostra.
Donc, en résumé, 26 vitrines. Ça aurait pu être plus. L'an dernier, il y avait 38. Bon, là, je dirais que c'est un peu un choix... involontaire, hein. c'est un peu comme ça au gré des discussions et les artistes. Donc cet artiste, une trentaine d'œuvres, puisque certaines vitrines accueillent plusieurs œuvres, hein, c'est le cas de David Suet. Aujourd'hui se déroule, quand même je dois le souligner, au Hall Saint-Jean des rencontres, hein, lycéens, qui ont un lointain, mais quand même un rapport avec la Mostra, hein, puisqu'on travaille aussi avec des lycées agricoles et autres, et puis on travaille avec les écrans de Lozère. Le parcours est disponible à l'office de tourisme et ce qu'il faut souligner avant tout, c'est comme l'an dernier, la dimension partenariale très très importante de cette manifestation. C'est ce qui m'a étonné le plus en termes d'ingénierie, c'est qu'on pouvait associer autour de la Mostra des partenaires très très différents. Alors évidemment, tous les partenaires privés, je ne vais pas les citer, les propriétaires, mais aussi des partenaires institutionnels hein, qui tout soutiennent la Mostra. Et quelqu'un comme David Suet, c'est particulier. Par exemple, a été soutenu par des structures lozériennes, son poids en beurre, des miroirs, des pierres. Voilà, donc je pense que c'est intéressant de le souligner.
Allez, une dernière question à laquelle vous n'aimerez pas répondre. Une œuvre à sortir du lot qui est vraiment originale, là, les gens qui ne connaissent pas du tout l'art contemporain, qu'est-ce qu'il faut aller voir?
Bah, écoute, moi je pense que les deux, il y a des belles surprises. Moi j'aime beaucoup celle de David chez Optique 2000.
Ok, c'est noté. Vous pouvez aller voir aussi la devanture de la Dille, avenue Foch, c'est sympa.
Peut-être une autre fois, on pourra participer.
Hein. Vous verrez au moins les conseillers.
On reste concentré sur le cœur de Mende. Hein. Je ne sais pas si l'avenue Foch, c'est...
Non.
Déjà plus le centre-ville.
On pensera à déménager alors.
Voilà, très bien. Mais n'hésitez pas. Donc, l'office de tourisme pour avoir le plan, parce que c'est toujours bien de suivre un parcours. Il y a des explications aussi sur les vitrines, je suppose. Sur le plan aussi, il y a des explications
Non, mais par contre, on a un site web qui a été réalisé par les étudiants de la fac de Mende que je réactualise encore ce matin régulièrement, sur lequel j'ai mis les parcours et les plans. On a aussi une page Facebook qui est réactualisée quotidiennement. On a un compte Twitter. Donc la page Facebook finalement est assez pratique pour avoir régulièrement des images et des vues des œuvres in situ.
Parfait. Ben écoutez, super. On est sur les réseaux sociaux, on est dans la rue, on est partout. Un art contemporain qui vit et pour faire vivre le centre-ville. Merci beaucoup pour toutes ces explications. On espère voir du monde lécher les vitrines lozériennes.
Et en profiter pour aller chez nos commerçants, dépenser un peu d'argent. Hein, il faut que ça fasse vivre la ville aussi, c'est un des objectifs.
Merci Ludo. Et n'hésitez pas, si vous n'en avez pas, Ludo vous accompagne pour faire du lèche-vitrine et sponsoriser vos achats.
Vos achats.
Un grand merci à tout le monde pour ce 65e magazine qui fut presque un peu plus long que les autres. On a pris notre temps aujourd'hui, mais c'était bien. Un grand merci à tous les invités pour vos interventions, explications. Et on espère vous revoir et on espère surtout garder nos auditeurs qu'on salue bien. Et on sera rediffusé, je crois, je ne sais plus quand, mais Ludo va
jeudi à 18h10, samedi à 11h.
Voilà, et donc ça sera trop tard pour aller à la conférence de cet après-midi, mais ça sera encore temps pour aller faire du lèche-vitrine contemporain ou éventuellement rencontrer la Dille. Mais en tout cas, ce ne sera pas trop tard pour aller rencontrer M. Vaquier et puis adhérer à l'association. Très bien. À très bientôt. Merci.
Merci
au revoir.
Beaucoup.
Merci. Au revoir.
Au revoir.